Chapitre 26. Le 19 août 2016. 9h. Il faisait déjà presque une chaleur irrespirable sous les bungalows, dès que les rayons passaient au-dessus des branches d'olivier pour chauffer le cube de tôle, telle une boîte de conserve oubliée en plein soleil. Clotilde aimait cuire ainsi, façon cannelloni au bain-marie. Elle adorait traîner au lit seule, sentir la température monter jusqu'à devenir insupportable, jusqu'à tremper son corps de sueur. Il ne manquait que la douche, ou mieux encore, la piscine pour s'y jeter à peine réveillée. Franck était déjà parti courir. Valou dormait encore. Son papa attentionné lui avait réservé la chambre à l'ombre jusqu'à midi. Petite chérie. Sauf que c'était elle, Clotilde, qui se sentait comme une ado excitée. Ses doigts firent à nouveau glisser les touches du clavier de son téléphone portable. Elle relut les trois lignes. Le message était arrivé dans la nuit, à 4h05. « Content de t'avoir revue. Tu es devenue très belle, Clotilde, même si je te préférais en Lydia Dietz. Sans doute parce que depuis, j'ai appris à vivre avec les fantômes. Natale. » Elle prit le temps de lire et relire les trois lignes, de peser chaque mot de sa réponse. « Contente de t'avoir revue. Tu es toujours aussi beau, Natale, même si je te préférais en chasseur de dauphins. Depuis, j'ai appris à vivre sans les fantômes. Clos. » Un délicieux sentiment d'euphorie la berçait. Natale n'avait plus grand-chose à voir avec l'homme dont elle avait gardé précieusement le souvenir, mais bizarrement, le sentiment de déception disparaissait doucement, s'évaporait. Un peu comme si une idole de son adolescence, n'importe quel chanteur au corps parfait exposé sur un poster en papier glacé, descendait de son affiche, et que chacune de ses imperfections le rendait plus séduisant encore, plus humain, plus aimable. Clotilde se souvenait d'un Natale qui la rendait folle. Un fantasme inaccessible du haut de ses 15 ans. Aujourd'hui, elle découvrait un homme fragile. Tous ses rêves ébréchés, mal compris, mal aimés, mal mariés. Toujours libre en résumé. Toujours libre. Clotilde, du fond de son lit, trouva l'expression paradoxale. Natale était toujours libre parce qu'une femme lui avait volé sa liberté. Elle éclata de rire toute seule. Au fond, toutes les amoureuses sont des voleuses de liberté. Elles rêvent de croiser le prince charmant pour le séquestrer dans une cave. Elle posa le téléphone sur la table de chevet et replongea dans un demi-sommeil, s'enroulant dans les draps chauds et humides comme on se couvre d'une serviette dans un hammam. Combien de temps s'était écoulé lorsque la voix de Franck la fit sursauter ? « Merci pour le petit déjeuner !» Plus d'une demi-heure. Clotilde se réveilla d'un bond, accepta le bisou de Franck sur son front. Sueur contre sueur, celle des efforts de Franck pour grimper en petite foulée jusqu'à Notre-Dame de la Serra, et celle de Clotilde apparaissait sous la fournaise. Elle peinait à capter la raison de ce baiser rare. « Merci pour le petit déjeuner !» Elle se leva, étonnée. La table était dressée. Pain frais, croissant, café, thé, bol et miel, jus de fruits et confiture. Franck avait mis la table pour l'épater. Son merci pour le petit déjeuner, c'était une formule ironique pour l'inviter à se lever. Lui, le sportif courageux, secouait la feignasse mollassonne. Le regard de Clotilde croisa le téléphone portable sur le chevet avec un soupçon de culpabilité. Ne pas tout gâcher. À son tour, elle posa un baiser dans le cou de Franck. « Merci. » Franck eut l'air étonné.
« De quoi ?»«
De ce petit déjeuner royal. Il ne manque que la rose dans son soliflore. » Franck eut l'air cette fois parfaitement abruti.
« C'est pas toi ?»«
Non, je dormais. » »«
Et moi, j'arrive juste. »
Leurs deux regards incrédules se dirigèrent en même temps vers le rideau de la chambre de leur fille.
« Valou ?»
Qu'elle ait pu avoir cette attention pour ses parents paraissait plus difficile à croire que l'intervention discrète d'elfes de maison. Franck en eut la confirmation, sous la forme d'un grognement d'outre-tombe dès qu'il tira le rideau de la chambre de l'adolescente. Ni Valou, ni Franck, ni elle. Qui alors ? Clotilde avait enfilé une liquette et détaillait la table dressée, troublée par des détails qu'elle n'avait tout d'abord pas remarqués. Elle ne comptait pas trois bols, couverts et serviettes posées sur la petite table de camping, mais quatre. Ce nombre n'avait cependant aucune importance comparé aux autres coïncidences. Franck sortait de la chambre de Valentine. Clotilde lui fit remarquer un verre rempli de jus de fruits rose orangé et le bol blanc disposé à côté. Nicolas se plaçait toujours ici, en bout de table. Il buvait invariablement au petit déjeuner un jus de pamplemousse et un bol de lait. Franck ne répondit pas. Clotilde continua, désignant une tasse et une cafetière encore fumante. Papa se mettait en face, là, vidait un café noir. Une bouilloire, deux sachets. Maman et moi, nous prenions du thé. Elle avait aussi acheté des confitures au marché du port de Staresso, figues et arbouses. Doucement, elle fit pivoter les pots placés à côté de la bannette de pain. Figues et arbouses. Clotilde posa sa main sur la table, instable. Tout est là, Franck. Tout est là. Comme il y a... Franck leva les yeux au ciel. Comme il y a 27 ans, Clo. Comment peux-tu te souvenir des parfums de la confiture que vous preniez au petit déjeuner il y a 27 ans? De la marque du thé? De... Clotilde le fixa presque méchamment. Comment? Ce sont les derniers moments que j'ai vécus avec ma famille. Ce sont les derniers repas que l'on a pris ensemble. Ils ont hanté mes nuits depuis. Des milliers de nuits et des milliers de jours. Les fantômes de maman, papa et Nico se sont assis à côté de moi, à ma table de petit déjeuner, tous ces matins où j'étais seule, où tu étais déjà loin au boulot. Alors oui, Franck, je m'en souviens. De chaque détail. Franck battit rapidement en retraite. Une ruse pour mieux changer d'angle d'attaque.
Ok, Clo, ok. Mais admets qu'il ne s'agit que d'une coïncidence. Du thé, du café, du jus de fruits, des confitures locales. 9 familles sur 10 avalent ça au petit déjeuner.
Et la table? Qui a mis la table?
J'en sais rien, peut-être que Valou nous joue la comédie. Ou toi? Ou moi? Ou que c'est juste une mauvaise blague? Une attention délicate de ton ami de Cherbonne et ou de son dévoué Hagrid? Après tout, il semble t'adorer.
Clotilde sursauta en entendant le surnom d'Orsou. Elle résista à l'envie de balancer un grand coup dans les 4 pieds d'alu, de tout exploser dans une gerbe de café froid et de beurre fondu. Le calme de Franck l'insupportait plus encore. Quelqu'un veut te faire repenser au passé, Clo. Ne rentre pas dans ce jeu-là. Ne cherche même pas à savoir qui... Clotilde n'écouta même pas la suite des arguments de son mari. Elle venait de découvrir, sur une chaise, un journal plié en deux. Le monde. Celui d'aujourd'hui. Elle l'observa comme s'il allait prendre feu.
Et ce journal?
Pareil, continuait Franck. Une mise en scène. Je suppose que chaque matin, tes parents lisaient le journal, comme tout le monde en vacances.
Non, jamais!
Alors tu vois, le mystérieux serveur a commis une erreur. Cela prouve que...
Jamais!
Coupa Clotilde. Jamais mes parents ne lisaient le journal en vacances. Sauf une fois. Une seule fois. Papa était allé chercher Le Monde à la maison de la presse de Calvi et l'avait rapporté avant même que maman ne se réveille. Il l'avait glissé sur sa chaise. C'est le dernier petit déjeuner que nous ayons pris en famille. Notre dernier repas à 4. Le lendemain, papa est parti 3 jours faire de la voile avec des cousins vers les îles Sanguinaires. Il n'est revenu que le 23, le jour de l'accident. Franck observait sans comprendre le quotidien qui traînait sur le fauteuil.
Le 19 août 1989, les Hongrois ont fait sauter pour la première fois le rideau de fer. À Sopron, sur la frontière autrichienne, la ville natale de ma mère. Pour la première fois de sa vie, maman a lu le journal. Le journal que lui avait apporté mon père. Celui du 19 août, Franck. Le 19 août, comme aujourd'hui. Cela ne peut pas être une coïncidence. Et pourtant quoi?
Un instant, Clotilde eut l'impression que Franck lui jouait la comédie. Qu'il était au courant de tout. Que personne d'autre que lui n'aurait pu dresser cette table sans la réveiller. Elle chassa cette idée stupide et continua comme si elle n'avait pas entendu son mari.
Et pourtant, personne d'autre ne pouvait être au courant. Personne d'autre que Nicolas, maman, papa et moi. C'est une histoire de famille, une anecdote de rien du tout. Papa l'avait acheté tout seul sans rien préméditer. Maman a lu l'article en 5 minutes, une demi-page, puis elle a posé le journal sous le barbecue et on l'a brûlé à midi. Personne ne pouvait connaître ce détail. Personne, à part un de nous 4. Tu comprends, Franck? Celui qui a posé ce journal sur la chaise de ma mère est forcément un de nous 4. Un de nous 4 vivants.
« Ce n'est pas la chaise de ta mère, Clo. »«
Si, » allait répondre Clotilde. « Si, » allait-elle hurler. Valou le fit avant elle. Vous n'avez pas fini de vous engueuler ?
Elle était debout, emmitouflée dans un peignoir Betty Boop, cheveux ébouriffés et très tirés. Elle s'installa à table, à la place du fantôme de Nicolas. Tira le bras pour attraper le journal, un autre pour porter le café à ses lèvres et grimaça.
« Dégueu, il est froid !»
Clotilde l'observait, consternée.
« Faut relever les empreintes, Franck !»
Il soupira. Il couvait sa fille des yeux et regardait sa femme comme si elle était folle. Comme si l'une avait définitivement pris la place de l'autre, sa jeunesse, sa beauté, sa joie de vivre, sa raison. Sa fille ouvrit le pot de confiture d'un mouvement de poignet énergique, croqua le pain à pleines dents, croquait la vie à pleines dents, s'apprêtait à dévorer la journée avec un bel appétit, une grasse matinée, une table de petit déjeuner ensoleillé, des vacances dorées, une vie rêvée. Et pourtant, Clotilde n'arrivait pas à se défaire de cette idée. Valou profanait chaque objet qu'elle touchait, détruisait par chacun de ses gestes un ordre secret, sacré. Franck avait raison. Elle devenait folle.
Votre mari n'est pas là ?
Non, il est parti plonger dans le golfe de Galeria. Le capitaine Cadena avait mis plus de 3 heures à venir. Franck avait abandonné après moins d'une heure d'attente. Le gendarme avait précisé au téléphone qu'il ne comprenait rien à cette histoire de table de petit déjeuner, mais qu'il viendrait quand même, avant tout pour définitivement solder cette histoire de portefeuille volé. Il avait vaguement enquêté, sans rien trouver. Aucun indice, aucun début de piste. Il tournait depuis moins de 2 minutes autour du bungalow.
« Et votre fille ?
Elle a dû partir. Elle participe à une sortie canyoning. » Cherbonne et Spinello se tenaient à côté. Le directeur du camping confirma d'un signe de tête. La moitié des ados du camping étaient partis en minibus pour l'après-midi dans les gorges du Tsoïku.
Je ne vois pas ce que je peux faire d'autre, Madame Baron.
Relever les empreintes, crétin. Puis les comparer avec toutes celles des touristes dans ce camping, puisque c'est forcément l'un d'eux qui m'a fait cette blague. Interroger des témoins, tous ceux qui sont passés devant mon bungalow ce matin, et surtout arrêter de me prendre pour une débile mentale. Le 3/4 de rugby exilé sur l'île de Beauté la regardait, les bras ballants. À tous les coups, Cherbonne l'avait briefé. L'incident il y a 27 ans, les souvenirs qui reviennent, la survivante qui perd un peu la boule. Cherbonne posa une main sur l'épaule du gendarme. La virilité entre mâles. La connivence de troisième mi-temps entre le sportif assoiffé et celui qui paye la tournée.
« Je vous offre un verre avant que vous repartiez ?»
Le gendarme rugbyman ne refusa pas. En les voyant s'éloigner, Clotilde comprenait qu'elle ne pourrait pas compter sur l'aide de la police ni de personne d'autre. Qu'elle devrait se débrouiller seule. Seule, même si elle avait une longue série de rendez-vous à planifier d'urgence, de témoins à rencontrer, questionner, faire parler. Cette garce de Maria Chiara qui lui avait claqué la porte de sa loge au nez comme si elle avait croisé un fantôme. Son grand-père Cassanou qui, depuis le début, était au courant pour le sabotage de la voiture de ses parents. Natale. Natale qui lui aussi avait un fantôme à lui présenter. Plus les mystères s'épaississaient, et plus Clotilde était persuadée que la solution se trouvait dans ses souvenirs. Ses souvenirs de l'été 1989. Mais elle n'en avait conservé que des bribes, des impressions, des flashs, passés depuis par le filtre de ses cauchemars. Comment leur faire confiance ? Elle avait besoin de souvenirs concrets, de faits tangibles, de témoins fiables. Elle aurait tout donné pour avoir conservé son journal intime, celui dans lequel elle avait tout consigné cet été-là, celui qu'on ne lui avait jamais rendu.
Pourquoi ? Elle avait besoin d'un point de départ, d'un bout de fil pour dénouer le reste de la pelote, d'un début de film bien réel pour que le reste des images suivent. Et elle savait où le trouver.
Clotilde fixa à nouveau la table du petit déjeuner. Un peu plus loin dans l'allée, Orsou, râteau et pelle à la main, l'observait comme s'il attendait pour débarrasser. Comme s'il savait. Comme s'il avait tout vu mais ne pouvait rien dire. Cela attendrait. Ce n'était pas Orsou qui détenait l'épreuve. Ni Maria Chiara, ni Cassano. Eux aussi attendraient. Clotilde pestait de ne pas y avoir pensé avant. À 100 pas d'elle, 2 allées et 3 mobilhomes, se trouvaient archivées toute la mémoire des Euproctes. Tous les faits et gestes, tous les visages,
tous les regards. 50 ans d'histoire. Restait à convaincre le gardien du musée de lui ouvrir ses grimoires.